Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bien chers frères, c'est un épisode plus que connu, celui de la femme adultère, et on oublie souvent de remarquer que c'est alors que le Christ enseigne, c'est alors qu'il prie, qu'il va au temple, qu'on lui présente cette contradiction. Vous le savez, on s'approche des jours saints, on n'en peut plus de ce Messie qui semble vraiment être le Messie et qui en même temps exaspère beaucoup ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'il était venu annoncer, ni qui il était vraiment, c'est-à-dire pas un roi humain venu restaurer un royaume sur terre, mais le Fils lui-même de Dieu venu pour accomplir toute la loi et nous permettre de trouver la vie éternelle. Alors voilà qu'on lui amène cette femme prise en situation d'adultère et qu'on lui demande de le juger. Le piège est très simple. Le Seigneur dit qu'il est venu pour sauver le monde et pardonner les péchés. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Comme il se prétend le fils de la nation, eh bien, on le met en contradiction et on verra bien si on pourra l'accuser. Le piège est très simple et comme toujours, notre Seigneur va garder un calme olympien et répondre presque en étant extrêmement détendu à une situation aussi grave. Voyons d'abord, puisque c'est l'invocation qui est faite de la justice, comment Dieu juge, et puis dans un deuxième temps, quel est son jugement, quel est le résultat de sa parole. Tout d'abord, comment Dieu juge, c'est très simple, il y a deux gestes qu'il pose ici dans cet évangile, il s'abaisse et il se redresse. D'abord, il s'abaisse. C'est étonnant pour un juge, on est étonné nous-mêmes, si vous allez dans un tribunal humain, eh bien normalement le juge est placé en haut pour voir les choses d'en haut et pouvoir juger les gens. Ici, le Seigneur, exprès, à propos, se met accroupi et il baisse les yeux, peut-être aussi pour respect, pour cette femme qui de toute façon n'est pas du tout le sujet des pharisiens et des scribes. Cette femme ne les intéresse pas beaucoup, c'est juste un objet, c'est un moyen qu'ils ont trouvé pour mettre le Seigneur en défaut. Ils n'ont aucun intérêt porté à cette femme. C'est le contraire du Seigneur qui va considérer la personne qu'on lui présente et qui va commencer par s'abaisser. Le jugement du Seigneur, et c'est un vrai jugement, il est vraiment juge, mais son jugement n'est pas pour détruire, écraser, condamner, son jugement est fait pour servir. Il va, et vous le savez, dire la vérité à cette femme, mais lui trouver une solution pour sa vie. Il va donc commencer par s'abaisser pour montrer qu'il ne la prend pas de haut et qu'il veut se mettre plus petit qu'elle. Vous le savez, on s'abaisse devant un malade, on s'abaisse devant un tout petit enfant, on s'abaisse devant quelqu'un qui est handicapé pour le porter. Bref, il ne s'agit pas d'écraser, mais de relever. Il me souvient qu'un jour, un pénitent m'avait fait cette remarque que le siège que j'avais était plus bas que lui quand il était à genoux sur le prie-Dieu. Et il y en avait un ou deux de temps en temps qui me disaient « Mais ça me gêne que vous soyez assis plus bas que moi. » Et bien je lui dis « Ça tombe bien d'avoir remarqué parce que je l'ai fait exprès. » Le Seigneur juge et il juge à la hauteur d'homme. Plus étonnant peut-être, après s'être redressé et avoir donné son premier jugement, que je vais voir ensuite, après leur avoir dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, il va de nouveau se rabaisser à terre. Cette fois-ci, disent les pères de l'Église, c'est devant les accusateurs qu'il s'abaisse. Le Seigneur est venu pour sauver tout le monde. Il ne faudrait pas recréer la catégorie des bons et des méchants en nous plaçant d'ailleurs assez facilement et rapidement dans la catégorie des bons et des gentils, évidemment. Le Seigneur va essayer aussi de sauver ceux qui sont animés d'une intention mauvaise et il va de nouveau, après leur avoir donné un jugement, il va s'abaisser devant eux et les mettre devant leur propre responsabilité. Leur responsabilité devant l'acte qu'ils sont en train de commettre, c'est eux qui sont debout, eux qui sont en train d'agir. Ils n'ont pas bien agi, vous le savez, pour saisir cette femme en situation d'adultère. Il est étonnant d'abord qu'il les saisit seul. Je crois que l'adultère se commet à deux. Et dans un deuxième temps, c'est pour les renvoyer à leur autorité. Quelle est leur autorité pour juger cette femme ? Quelle est leur autorité ? Il va leur dire quelle est leur autorité ? Il va leur dire qu'ils n'en ont pas. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Le jugement qu'ils invoquent est un jugement de dureté, et puissions-nous ne jamais espérer ce jugement pour nous ? Car mes bien chers frères, si nous espérons la justice stricte, souvent on aimerait la justice, mais on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Bien sûr qu'on aimerait qu'on soit juste, mais si vraiment le Seigneur était parfaitement juste avec nous, que mériterions-nous de recevoir ? Certainement une pierre. Mais ce n'est pas le jugement du Seigneur. Alors ils s'en vont tous, ils comprennent, ce n'est pas une foule acharnée et délirante, ce n'est pas une colère folle, ce sont des gens mal intentionnés, mais malgré tout réfléchis, et ils vont saisir cette occasion pour sauver leur conscience, ils vont écouter leur conscience et partir les uns derrière les autres avec ce détail savoureux de l'Écriture, en commençant par les plus vieux. Alors, ce n'est pas que les plus anciens parmi nous soient les plus pécheurs, disons que les plus anciens ont eu plus d'occasions de pécher que les plus jeunes. Il est évident que quand on a 5 ans, on a eu moins de temps pour faire des bêtises que quand on en a 90. C'est la sagesse même qui parle, et reconnaissant cette sagesse, ils vont partir les uns derrière les autres. Alors le Seigneur se redresse une deuxième fois, et cette fois-ci, il est prêt à donner son jugement pour la femme, et il lui demande, c'est étonnant, il l'interroge, et lui demande où sont ses accusateurs ? A-t-elle été condamnée ? Il sait très bien que non. Et c'est la femme qui va pouvoir prononcer sa libération. Non, personne, Seigneur, ne m'a condamné. En l'appelant Seigneur, cette femme se rend disponible pour le jugement qui vient. Elle s'en remet à son Seigneur. Elle a reconnu celui qui a autorité. Et visiblement, on ne connaît pas l'intérieur de son cœur, elle ne semble pas apeurée. Alors après avoir vu comment le Seigneur jugeait, voyons maintenant son jugement. Il est très simple, il tient en deux propositions. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » « Moi non plus, je ne te condamne pas », c'est la bonne nouvelle que le Seigneur est venu apporter. Il est tellement juge, qu'il sait tellement tout, qu'il est capable de trouver une autre solution que notre propre destruction, il va trouver la solution du salut. Il ne s'agit pas de dire à la femme « Oh non, tu n'as pas péché ». Ce n'est pas ce qu'il lui dit. Il va lui dire « Va et ne pêche plus ». Quand on va se confesser, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'aller se réconforter en entendant dire que « Non, il ne s'agit pas d'un péché ». Il me souvient d'ailleurs, c'est une anecdote que je vous livre, d'une fois où j'entendais une femme en confession. C'était tout au début de mon ministère, et elle était venue dans une paroisse où elle était sûre de ne pas être connue, parce que je ne l'avais jamais vue, et elle se confesse du plus vieux métier du monde. Mais ce qui m'étonnait, c'est qu'elle se confessait d'avoir vendu son corps alors que c'était déjà ancien. Ça avait déjà 15 ans qu'elle ne le faisait plus. Et visiblement, ce n'était pas la première fois qu'elle se confessait. Alors, je me suis dit, mais pourquoi se confesse-t-elle encore ? Puisque d'une part, elle ne pêche plus, et que d'autre part, elle a déjà confessé ce péché. Alors je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout. Je lui ai qualifié son péché, je lui ai dit quel était ce péché. C'est pas facile, hein, quand on est même plus jeune que la personne qui se confesse et qui vous dit quelque chose qui n'est pas d'avoir volé des bonbons dans un paquet, mais quelque chose de prenant. C'est plus facile de faire comme si on n'avait pas bien entendu et de dire « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père » et d'aller un peu vite. Et j'ai senti que ce n'était pas le moment d'aller trop vite et j'ai qualifié son péché en morale en le disant pourquoi c'était la dégradation de l'œuvre de Dieu et le fait de le commercialiser, la pornographie au sens propre du terme. Alors cette femme pleura évidemment Et je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit en se relevant. Elle m'a dit « Ce n'est pas la première fois que je confesse ce péché, mais c'est la dernière. Je vous remercie parce que tous ceux que j'avais entendus jusqu'à présent m'avaient trouvé des excuses et vous m'avez dit de quoi j'étais pardonné. » Alors il faut aller jusqu'au bout du péché pour savoir de quoi on est pardonné et il faut se réjouir beaucoup parce que Dieu peut tout pardonner. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. La mesure de l'amour, et Dieu est amour, c'est d'aimer sans mesure. Quel que soit notre péché, quelle que soit notre déréliction, quelle que soit notre faiblesse, si nous voulons la remettre au Seigneur, il peut nous pardonner et nous libérer de tout péché. Quelle extraordinaire bonne nouvelle que nous proclamons à chaque fois que nous nous confessons. Est-ce que vous y avez déjà pensé, mes bien chers frères ? Souvenez-vous de la phrase que vous dites, que nous disons, parce que je me confesse aussi, quelle est la phrase que nous disons au moment où on arrive devant le prêtre? On dit « Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché ». C'est complètement extraordinaire. Normalement, dans la vie, on vient chercher une bénédiction, une récompense quand on a fait le bien. Et ici, c'est l'inverse. On vient chercher une récompense, un bien, parce qu'on a fait le mal. En fait, notre péché ne pourra jamais nous séparer de Dieu parce que soit que vous ayez fait le bien et vous êtes avec Dieu, soit que vous ayez fait le mal et vous pouvez encore vivre avec Dieu. Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Le chrétien n'est jamais perdant autant qu'il se livre à son Seigneur car il trouve toujours le chemin de la miséricorde, toujours prête, jamais limitée et jamais conditionnée. Voilà le jugement du Seigneur qui dépasse tout jugement humain, un jugement qui est capable de recréer. Vous le savez peut-être, dans le sacrement de pénitence, vous recevez toutes les grâces dont vous vous étiez privé en péchant, en vous éloignant du bien. Dieu fait revivre en vous la grâce divine dont il vous avait réservé le privilège. Enfin, en disant à la femme pécheresse « Va et ne pêche plus », il lui donne la possibilité de vivre encore. Il lui avertit que le mal pourrait la faire mourir, mais il lui dit qu'elle peut encore s'en aller. Alors, c'est pareil quand vous vous confessez. Normalement, après que le prêtre ait prononcé la formule de bénédiction et d'absolution des péchés, il peut, et à mon avis, il devrait toujours en dire une autre que vous connaissez peut-être, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce pour que vous viviez avec Dieu. Oui, si nous confessons notre péché, c'est bien que nous voulons nous en séparer et en être pardonnés, mais c'est peut-être encore plus encore pour que nous puissions, comme cette femme, vivre de nouveau, vivre encore plus de la grâce de Dieu, nous laisser sanctifier. Tel est le but de notre carême. Voici qu'approchent les temps où le Christ va ressusciter et nous aussi ressusciterons avec lui. Amen.